Henri de Régnier, La Tentation. Il y a, dit-on, de mauvais riches, mais il y a aussi de mauvais pauvres. Et peut-être eussé-je été l'un ou l'autre si la fortune n'avait pris soin de me maintenir dans une honnête médiocrité. J'ai accepté cet état intermédiaire, sans trop rien dire et sans y prendre ni le mépris ni l'envie des richesses. L'argent m'est toujours apparu et m'apparaît encore comme un avantage considérable, et je trouve qu'il n'y a lieu ni de le dédaigner outre mesure, ni de le désirer avec excès. L'argent est ce qu'il est, après tout, puisque nous parlons franc. J'aurais eu plutôt une tendance à être quelque peu sensible aux facilités qu'il donne à vivre comme on le veut et tel qu'on se veut. Néanmoins, j'ajoute que je n'ai jamais rien tenté ni fait pour le posséder, le conquérir. Quand j'y réfléchis, je constate que c'est une certaine paresse naturelle et un certain désintéressement intérieur qui m'ont empêché de me servir des moyens que j'aurais eu de m'enrichir. J'ai compris très vite que c'est un dur travail de devenir riche et qu'il y faut toute l'énergie et toutes les forces que l'on a en soi. J'admire ceux qui ont le courage de s'utiliser tout entier, corps et âme, à cette tâche laborieuse, de s'y donner, de s'y sacrifier, d'en accepter la tyrannie, au risque de ne parvenir au but que trop tard et de ne l'atteindre qu'au moment d'en éprouver la vanité et le néant. Je sais bien que parfois la puissante et mystérieuse intervention de la chance vient en aide au hasard et qu'à eux deux, ils font de ces fortunes subites, déconcertantes, qui semblent nées d'un caprice du sort et d'un jeu de la destinée. Mais ces cas sont rares et ils ont je ne sais quoi d'effrayant. Ce sont cependant les seuls qui me paraissent sinon enviables, du moins doués d'une certaine beauté fatale. Mais tout le monde n'est pas de taille à affronter et à supporter ces soudaines fantasmagories de l'argent, ces montées au pinacle, ces sautes brusques de conditions, et on peut craindre les vertiges et s'y dérober par une sorte d'appréhension. Or, c'est un singulier état d'esprit que cette timidité nerveuse devant l'apparition foudroyante de l'argent, ce retrait de tout l'être devant ces étincelantes faveurs, et cet état d'esprit, je le connais d'autant mieux que je l'ai éprouvé. Oui, il y a eu une minute dans ma vie où j'aurais pu passer d'un bond de ma médiocrité à l'opulence. Oui, je n'aurais eu qu'un mot à dire pour que le miracle s'accomplisse. Et cette minute, je ne l'ai pas voulu. Ce mot, je ne l'ai pas prononcé. Ce fut à l'occasion de l'achat qu'il venait de faire du royal château de Valclerot, le plus magnifique, le plus historique des châteaux de France avec Versailles et Vaux, que je fus amené à faire connaissance du célèbre financier Claude Herburon, un des plus riches hommes des deux mondes, et qui est mort l'an dernier, comme vous savez, en laissant à l'État ses immenses richesses. Herburon voulait restaurer Valclerot, et on lui avait dit que je pourrais lui fournir certaines indications sur ce qu'avaient été jadis les jardins et les eaux de cette admirable demeure. J'y fus donc conduit par un ami, Jules Lérin. Herburon nous invitait à y venir passer 2 ou 3 jours. J'acceptai l'invitation, plutôt pour le château que pour l'hôte. Peut-être pourrais-je lui éviter quelques restaurations maladroites, car, d'après ce que j'avais savé des commencements de la montée de l'apothéose financière de Herburon, j'inaugurais plutôt mal de son goût. Parti de rien, Herburon était arrivé à tout. Il avait sué la misère, fait tous les métiers, avant d'édifier la prodigieuse fortune qui avait fait de lui un roi de l'argent, mêlé à toutes les grandes affaires mondiales et châtelain de Valclerot. L'impression que me causa Claude Herburon fut assez conforme à celle que j'attendais. C'était un grand et gros homme d'une 60aine d'années. Son corps vigoureux supportait une tête solide. Barbe et cheveux grisonnants, yeux aux lourdes paupières, avec sur le visage une expression à la fois de finesse et de brutalité, Herburon avait des manières brusques et avenantes. Les portraits que j'avais vus de lui donnaient assez mal l'idée du personnage, nullement antipathique en sa vulgarité puissante. Il nous reçut fort bien, Jules Lérin et moi, et de façon à nous distinguer du groupe des parasites et de familiers qui l'entouraient. Aussitôt, il nous prit à part et nous exposa ses projets. Il entendait consacrer une somme énorme aux restaurations de Val-le-Clairaut. Ceci dit, il nous emmena explorer ce qui restait des anciens jardins qu'il voulait reconstituer. Parfois, il s'arrêtait pour m'interroger. Planté devant moi, le cigare aux dents, ses mains dans ses poches, la voix rude, Herbiron avait une certaine allure, mais le plus singulier était que cette allure ne m'était-il pas inconnue. Cette voix, il me semblait l'avoir déjà entendue. Elle évoquait en moi un souvenir que je ne pouvais pas préciser. Ce tour du propriétaire dura presque jusqu'à l'heure du dîner. Il fut somptueux. Quand on fut sorti de table et qu'on fut passé dans la grande galerie décorée par Lebrun, Herburon se fit apporter les anciens plans du château et nous continuâmes notre conversation. Herburon ne s'y montra dépourvu, ni de goût, ni d'intelligence. Décidément, Val-le-Clairaut n'était pas tombé en de mauvaises mains, et Herburon saurait en respecter les beautés. Je ne pus me retenir de lui en montrer ma satisfaction. À cet aveu, Herburon éclata d'un gros rire et posa sur mon épaule sa main puissante. « Ah ah, mon cher monsieur, cela vous étonne que je ne sois pas une brute ?» Un milliardaire imbécile, un parvenu grotesque. On vous a raconté bien des choses sur mon compte, n'est-ce pas? Que j'étais parti de bas, que j'avais traîné la guenille, fait tous les métiers et le reste. Eh bien, mon cher, on ne vous a pas tout dit. Oui, j'ai crevé la faim, connu les pires détresses, travaillé de mes mains, porté des fardeaux, c'est vrai. Oui, j'ai déchargé des sacs de blé dans un port. Et même un soir, j'ai failli tuer, oh, pas pour voler, mais pour manger. J'avais l'estomac creux, je rôdais sur les quais déserts comme une bête furieuse. J'attendais le premier passant pour lui sauter à la gorge. Il ne passait personne sur ce maudit quai. Quand tout à coup, dans l'ombre, j'ai aperçu la braise d'un cigare. Bon, j'étais prêt à bondir, mais je ne sais quoi m'a arrêté. Au lieu d'attaquer, j'ai mendié. Quand le passant eut disparu, je regardais le billet qui m'avait glissé dans la main. Je constatais qu'il m'avait donné 100 francs. 100 francs, attendez-vous, 100 francs. Et c'est avec ces 100 francs que j'ai édifié ma fortune. J'en ai fait des millions de ces 100 francs. Ils sont devenus une puissance et ma richesse, tout ce Val-Clairaut où nous sommes, qui fut la demeure d'un roi et où ma royauté à moi ne se sent pas déplacée. Mon seul regret est d'avoir pas pu rendre ce passant inconnu ses 100 francs. Et avec quels intérêts? Oui, monsieur. Il y a un homme de par le monde qu'il y a chez Claude Herburon, un crédit illimité. Pendant que Herburon parlait, je sentais mon cœur battre violemment. Je n'avais qu'un mot à dire, un nom à prononcer, un simple mot de 2 syllabes. Et comme César passait le Rubicon, je passais, moi, le pactole. Dans une sorte de vertige, j'évoquais ce quai nocturne d'Anvers, son odeur de marée et de goudron, les hautes coques des navires et cette ombre surgit soudain devant moi, cette ombre de misère et de détresse me criant sa faim et son dénuement, cette ombre humaine qui était Claude Herburon, et ce billet glissé dans une main suppliante qui eût pu être assassine et qui maintenant, sur un mot de moi, mais ce mot, je ne l'ai pas dit, parce que certaines avances, certaines surprises de la destinée sont plus effrayantes que les pires injustices. Et puis il y a des êtres faits pour la médiocrité, et il est probable que j'en suis un. Vous allez me demander pourquoi j'ai mis dans cette main inconnue une aumône si peu en rapport avec mes ressources. Ce fut la question que je me posais en rentrant à l'hôtel. Peut-être avais-je senti le danger que je courais, Peut-être avais-je obéi à quelque obscure suggestion de la neuve fortune, qui m'offrait ainsi la merveilleuse chance de richesse dont j'ai repoussé, par je ne sais quelle répugnance secrète, l'éclatante tentation.